à l'ombre du baobab.
Aujourd'hui, en compagnie d'Amaël sur Radio Fribourg.
La chaussure rouge est le réseau social des gens qui ont décidé de prendre soin de la vie. Je suis très heureuse de pouvoir faire passer ce message sur Radio FR. J'ai la chance de rencontrer Lucien Vimin. Bonjour Lucien.
Bonjour.
On se rencontre ici à Neuchâtel. C'est donc vous qui avez créé cette plateforme, ce réseau social. Il y a combien de temps maintenant ?
À peine une année, petite année, ouais.
Et vous portez toujours des chaussures rouges ?
Toujours, oui. Mais ça fait plus d'une année. Ça fera 2 ans au 1er mai que j'ai des chaussures rouges au pied uniquement.
Alors ça, c'est pour le clin d'œil, mais évidemment, j'aimerais bien parler un petit peu de ce qui se passe maintenant avec cette chaussure rouge. Il y a un dénominateur commun à tous ces gens qui ont déjà adhéré à ce réseau social, la chaussure rouge, c'est l'envie. Alors évidemment, selon sa conscience et ses possibilités, de revoir son mode de vie pour prendre soin de la vie. Alors, c'est très large, évidemment, comme optique.
C'est large, mais c'est beau. Alors, l'idée, c'est ça, c'est que dans les conférences que je donne, j'explique que finalement, l'écologie, c'est prendre soin de la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous. C'est ça, l'écologie. Et quand on montre un écolo du doigt, en fait, on montre quelqu'un qui tente de prendre soin de la vie, y compris la vie de celui qui le montre du doigt. Ce qui veut dire qu'on est tous concernés par cela. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Certaines fois, je rencontre des personnes qui sont un peu découragées, qui se sentent seules par rapport à l'immensité du travail qu'il y a à faire par rapport à l'environnement, sur la globalité, quand on se positionne au monde. Je leur dis, mais écoutez, vous savez, il y a des millions de personnes sur cette planète qui sont en transition, qui sont en changement, des milliers de personnes qui ont décidé de changer dans leur quotidien, des petites choses au début, comme des grandes choses, pour faire mieux pour le vivant, pour prendre soin de la vie, en fait. Et c'est ça que j'aimerais communiquer. Et je me suis dit, mais tiens, c'est comme des millions de petits lumignons qui sont éparpillés tout autour de la planète. Je me disais, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire que tous ces petits lumignons soient visibles? Plutôt que d'être éparpillés, que ça soit réuni et qu'on puisse, que ça soit un grand feu, un feu de joie, hein, pas un feu de guerre, bien entendu. Mais disons que ce soit ce grand feu qui ne puisse plus ne pas être vu et que ce soit vraiment bien ressenti au sein de la société. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, on ressent surtout la mondialisation avec sa pollution, ces multinationales qui font beaucoup d'argent et qui font tellement d'argent qu'ils arrivent à faire plier des politiciens. Et en tant que simple citoyen, des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est un boulet qui est là et on ne voit pas les réelles alternatives. Mais les alternatives, elles existent. Il y en a partout. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en lumière toutes ces alternatives, tous ces gens de bonne volonté, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Il y a des associations, des ONG qui font des choses merveilleuses. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réunir tout ça et d'avoir un petit symbole qui est une chaussure rouge qui symbolise cette envie de prendre soin de la vie. Et à partir de là, c'est de pouvoir la porter, soit en tant qu'individu, porter des chaussures rouges au pied. On n'a pas forcément besoin de le faire comme je le fais, ça peut être un peu taré pour le faire tous les jours. Mais disons, c'est clair que ça peut être occasionnellement ou journalier, tout dépend de la volonté de la personne. Et puis, lorsqu'on est une association ou même une entreprise qui va vraiment dans le sens de l'environnement, mental, par exemple, on pourrait imaginer qu'on estampille un petit logo de la chaussure rouge juste pour signifier que. Et avec ça, on va commencer à avoir autour de nous des petits logos, voir des chaussures rouges. Et ce qui est chouette, c'est un réseau social physique, c'est-à-dire on se rencontre dans la rue. Et là, il y a des superbes histoires qui se passent, je peux vous dire.
Alors concrètement, il y a déjà des rencontres qui se sont faites. Qu'est-ce qui se passe concrètement et physiquement autour de vous depuis que la chaussure rouge est née?
D'abord, l'idée m'est venue, je me suis donné 3-4 mois pour observer. Je me suis dit, ah tiens, le concept fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte, j'étais surpris que chaque fois que je voyais une paire de chaussures rouges dans la rue, je me disais, tiens, ah, prends soin de la vie, prends soin de la vie. Et ce que je me suis rendu compte, ce qui était chouette, c'est que je devais pas aller la chercher, c'est que ça venait à moi. Ça me surprenait au coin d'une rue, en achetant mon pain chez boulanger, etc. Et je me suis dit, ça c'est déjà top. Parce que chaque fois, ça me rappelle que la vie c'est important, il s'agit d'en prendre soin. Et puis ensuite, j'ai décidé de les porter, j'ai fait ça pendant 7 à 8 mois, et j'en parlais juste autour de mon entourage proche. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui commençaient à porter des chaussures rouges. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut vraiment fonctionner. À partir de là, j'ai approché une personne qui a donné son temps, Mathieu, pour toute la partie informatique, pour créer un petit site. Et puis, on a lancé ce site. Et puis après, il y a eu énormément de personnes qui se sont inscrites sur le site. Et puis, il y a plus d'un millier de personnes qui en ont inscrites. Et puis, sans faire vraiment beaucoup, beaucoup de publicité ou quoi que ce soit, quoi. Ça grandit. Et puis, justement, depuis le mois d'août l'année passée, on a fait une première rencontre. Je me suis dit, il faudrait voir maintenant, est-ce que les gens sont juste là pour s'inscrire, passer le fun, ou est-ce qu'ils sont prêts à se déplacer? Est-ce que je vais me retrouver seul, à 7, à 20? On a décidé de mettre en place cette première rencontre et on était une centaine de personnes. On a rempli la salle débordait. C'était à Champitay, du côté du Verdon. Et d'ailleurs, durant cette journée-là, on avait fait un atelier. Le thème était « Comment est-ce que je peux faire connaître la chaussure rouge autour de moi ?» Il y avait 10 groupes de 10 personnes On a pris une heure pour les 5 premiers groupes. On n'a pas pu entendre tous les groupes tellement il y avait d'idées. Donc là, ça m'a un peu décoiffé, je dois dire.
Parce que c'était un peu ça ma question. En ouvrant l'horizon si large à tous les gens qui veulent améliorer la vie, est-ce qu'on va vraiment vers quelque chose de concret? Donc visiblement, oui, c'est un peu des groupes qui vont se créer sur différentes thématiques, des gens qui auront envie d'agir ensemble.
C'est ça. La chaussure rouge n'invente rien. On est juste là pour créer du lien, c'est tout. La chaussure rouge, c'est pas une caste, c'est pas un club, c'est pas un mouvement. Il ne doit pas y avoir l'effet d'appartenance. On reste dans sa propre individualité. La chaussure rouge, c'est juste un état d'esprit qui est en marche sur l'ensemble de la planète. Cet état d'esprit, c'est de dire, OK, je me rends compte que quelque chose ne va plus très rond et j'ai envie de faire quelque chose pour ça. Je me rends compte que finalement, la vie, c'est le fondamental et j'ai envie de retrouver aussi de la cohérence dans ma vie. Et à partir de là, je me mets en marche, simplement. Et c'est ça, la chaussure rouge. C'est un état d'esprit, c'est une affirmation de soi. Ça peut être aussi la marque d'une évolution individuelle, ça va bien, c'est ça. C'est la pensée qui change, c'est la conscience qui s'élargit. Et c'est que ça, donc on reste vraiment soi-même.
On va revenir aussi tout à l'heure, si un humain, on va parler d'énergie grise, on va parler des projets qui vont suivre. Mais aussi pour vous situer, puis comprendre un petit peu votre démarche à vous, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu le parcours qui vous a mené jusqu'à cette réflexion de la chaussure rouge, parce que vous avez œuvré dans le domaine des finances, dans l'immobilier, dans l'horlogerie, et tout à coup, paf, vous avez tourné la page.
En fait, c'est vrai que c'est un peu toute l'expérience professionnelle qui m'a permis d'arriver à cette pensée-là aujourd'hui. Au début, comme vous l'avez dit, donc j'ai commencé une formation bancaire. Puis, c'était fin des années 80, début des années 90. C'est quand les restructurations ont commencé dans les entreprises. Et j'ai vu ce que ça voulait dire. Et ça, en tant que jeune employé, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, j'ai décidé de changer de domaine. Ensuite de quoi, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un poste de directeur des achats d'une entreprise horlogère. Ça m'a tout de suite projeté dans des responsabilités assez intéressantes qui m'ont fait aussi partir aux États-Unis apprendre l'anglais. Puis après, sur Hong Kong, Bangkok, la Chine. Et puis là, ça m'a permis de découvrir la Chine qui était en train de se construire. Je sais pas si vous moi, quand j'étais enfant, je regarde un jouet, derrière c'est made in Hong Kong. Aujourd'hui, si je prends un jouet, c'est made in China. Alors, cette transhumance de l'industrie de Hong Kong sur la Chine, je l'ai vécu à ses débuts. Et j'ai vu ce que ça voulait dire, j'ai vu ce qui se préparait. J'ai vu des montagnes se creuser en V pour laisser passer un pont. J'ai vu des usines se construire de manière complètement hétéroclite. On voyait plus vite je construis mon usine, plus vite je fabrique, plus vite je fais de l'argent. Et quand on entrait dans ces usines grandes comme 5-6 terrains de foot, des dimensions qu'on ne peut pas imaginer quand on habite ici en Suisse, et qu'on entrait, qu'on voyait les conditions de travail des gens, à l'intérieur, c'est quelque chose qui est simplement pas... Ouais, c'est difficile, j'ai trouvé en tout cas. Alors à partir de là, j'ai tenu 5 ans, et puis là, j'ai décidé de changer de métier. Et puis, c'est pas beaucoup mieux. J'étais promoteur immobilier, donc je me suis associé pour faire une société de promotion immobilière. Et puis là, je me suis rendu compte, au bout de 2 ans, qu'un promoteur immobilier a une très, très large responsabilité en matière environnementale. À partir de là, je me suis entouré de gens compétents en la matière. Donc, c'est des architectes des vrais, hein. Ils avaient ça dans le ventre. Et à partir de là, ça m'a changé ma vision des choses. Et c'est là que j'ai découvert l'énergie grise. Après 13 ans d'activité dans le monde immobilier, j'avais une personne qui me suivait depuis 6 ans. Et l'idée, c'était de lui retransmettre la société. Puis moi, ça m'a permis de prendre du temps. J'avais envie de m'offrir du temps pour penser, du temps pour mener une réflexion. Et puis cette réflexion, de pouvoir l'offrir, si on vient au public, aussi dans les écoles, auprès des enfants.
Aujourd'hui, vous vous sentez l'esprit d'un meneur? C'est quelque chose de facile pour vous d'aller de l'avant?
J'aimerais pas être un meneur. J'ai assez mené dans ma vie.
Mais pour transmettre un message aussi important que celui de la chaussure rouge, il faut y aller, quoi.
Oui, alors c'est pas meneur, je dirais... Moi, j'aimerais plutôt... j'ai pas envie de créer des suiveurs. C'est bien notre problème aujourd'hui. On est tous devenus suiveurs. J'aimerais pouvoir permettre à tout un chacun d'être acteur, plutôt. C'est ça. Et mon job, il est d'aller à la rencontre des gens, d'essayer d'expliquer l'écologie avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre. Il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre. Parce que vraiment, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des experts, des spécialistes qui s'expriment avec des mots parfois et souvent très compliqués que la majeure partie ne comprennent pas. Mais il y a comme une élite qui se met au-dessus de la masse. Et chacun a le droit de comprendre ça. C'est une légitimité en tant qu'habitant de cette terre. Et je crois que vraiment, c'est important de pouvoir parler pour que tout le monde comprenne. Tout le monde a le droit de comprendre. Et ce qui est important, lorsqu'on comprend quelque chose, on a envie de s'y atteler et d'y aller. Et le problème aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui désertent à cause environnementale parce que c'est compliqué, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on n'est pas motivé à y aller.
Donc la première chose, c'est de vulgariser.
Je dirais que les choses sont simples, mais l'être humain a tendance à les complexifier. Dans les écoles, on nous a appris à travailler avec le mental. On travaille beaucoup avec le mental. On ne laisse plus vraiment travailler l'être, en fait, et le ressenti. Il s'agit de trouver l'équilibre. Et cet équilibre, c'est ce que j'ai travaillé ces dernières années, à retrouver cet équilibre-là. Et Dieu sait si ça fait du bien, parce qu'on vibre. Et mon job aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer d'aller rencontrer des gens pour que ils puissent ressentir la vie et qu'ils aient envie comme ça d'en prendre soin.
Je crois que vous êtes le premier, encore une fois, à le transmettre aussi clairement, à dire prendre soin de la vie. Alors oui, l'urgence, c'est l'environnement, parce que la planète n'est pas en bon état, mais ça passe aussi évidemment par nous, parce qu'on s'est perdu aussi, nous.
Oui, effectivement, puis c'est tout à fait normal. Vous voyez, moi, je suis pas un exemple, hein. Je veux dire que je suis en chemin seulement. Je rencontre des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus loin que moi sur le chemin. Puis d'ailleurs, des gens qui me nourrissent énormément. Mais ça, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir déjà comprendre ce qui se passe pour avoir envie de faire ce premier pas. Et la chaussure rouge, c'est ça. C'est une invitation à réfléchir et une invitation peut-être à marquer, dire, OK, ce premier pas, je le fais. En tout cas, ce que je me rends compte quand je mets mes chaussures au pied, ce qui est chouette, c'est que ça me rappelle que je suis en chemin. Et la chaussure rouge, en tout cas, je me suis rendu compte, et ça, c'était pas dans le concept au départ, c'est à l'utilisation, à l'usure, que je me suis rendu compte de ça. C'est vraiment que quand j'enfile mes chaussures rouges, j'ai certaines fois une microseconde, des fois un peu plus, comme une petite méditation, parce que ça me rappelle que je suis en chemin. Et attention, fais gaffe, mon vieux, parce que la vie, c'est important. Prends-en soin.
Merci pour ce message. On va faire une pause musicale, on va revenir ensuite pour parler, on l'a promis, d'énergie grise. La musique, ça compte aussi dans votre parcours et dans votre vie et dans votre manière d'aborder la vie?
Alors, j'adore rire et j'adore danser, donc oui.
On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, la même culture, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur de sang. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre, peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais leur mélange, on fait l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Et tous issus d'un métissage, devenus fous, mais nés si sages. Et on a tous le même soleil,
assis à l'ombre du baobab avec nous ce matin. On parle du réseau social physique La Chaussure Rouge qui regroupe, je vous le rappelle, toutes celles et ceux qui ont envie de prendre soin de la vie et qui portent un jour, toujours ou de temps en temps des chaussures rouges. J'avais envie de vous taquiner, Lucien, parce que je me suis dit, ah tiens, j'ai pas de chaussures rouges, parce que je trouve ça que c'est pour une fille, je fais un peu ma pépette là, mais c'est super difficile à accorder des chaussures rouges.
Ouais, ça va. Moi, ouais, j'aime bien.
Je pourrais rappeler qu'il y a déjà un millier de personnes qui consultent lachaussurerouge.ch et puis surtout qui ont décidé de prendre des mesures pour prendre soin de la vie. Et puis, on a promis, Lucien, qu'on revenait sur un de vos chevaux de bataille. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais je crois que c'est un cheval de bataille, c'est parler de l'énergie grise.
Oui, alors j'essaie de ne pas être en bataille. Hein.
Ah. On ne doit pas vous suivre, on ne doit pas se battre. Tout est dans la démarche positive.
Positive, zen et libre. La liberté, c'est très important.
on va peut-être juste commencer par définir ce que c'est que l'énergie grise, parce que je crois pas que ça parle encore à tout le monde. L'énergie grise, en fait, c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est toute la pollution qu'on voit pas.
Exactement. C'est comme un iceberg. Ce qu'on voit, c'est la pointe. Et puis, ce qu'il y a tout, c'est la plus grande partie. Et ça, ça correspond à l'énergie grise. En fait, c'est toute l'énergie nécessaire pour fabriquer un objet.
Donc, si on prend, par exemple, un exemple très concret, une voiture.
Voilà, une voiture. Ben, c'est vrai que, ici en Suisse, on nous invite à changer de voiture régulièrement pour être écolo, qu'on nous dit. Mais là, c'est faire fi de l'énergie grise. On s'attache juste à ce qui sort du pot d'échappement ici, en Suisse. Si on élargit un peu les écoutilles et qu'on regarde qu'est-ce que a généré comme pollution la voiture pour être fabriquée, ça change la donne. Parce que justement, si on regarde ce qui se passe dans le reste du monde pour fabriquer une voiture, déjà une voiture, c'est des centaines de milliers de pièces. Donc imaginez-vous ce qu'il faut pour, comme énergie pour fabriquer tout ça. Et non seulement comme énergie, mais comme polluants chimiques pour fabriquer toutes les synthétiques, les plastiques, etc. Et cette pollution chimique, c'est une pollution qui tue la vie, en fait. Donc, ça entre dans les sols, dans l'eau, dans l'air. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir compte dans nos calculs. Donc, c'est vrai que c'est assez réducteur de faire des analyses qui nous disent, OK, pour la santé humaine, il vaut mieux changer de voiture régulièrement. Donc, à partir de là, c'est là qu'on se rend compte déjà que ça peut un peu fausser notre vision des choses. Et de se dire que finalement, à partir de là, pour beaucoup d'autres objets, plutôt que de changer pour économiser un petit peu ici, il faudrait peut-être mieux accepter de polluer un peu plus ici pour polluer nettement moins ailleurs.
Donc se mettre aussi à réfléchir à chaque fois qu'on a un objet en main, d'où il vient. Et quand on fait l'exercice, on commence à flipper, hein, par contre.
Oui, alors on commence à flipper et c'est très compliqué tant qu'on ne veut rien lâcher, en fait. Dès le moment où on commence à accepter de lâcher un peu dans sa vie de matériel, ça change. Si je veux, par exemple, suivre ce modèle, de changer régulièrement pour économiser, par exemple, je change de machine à café. Alors, je vais aller chercher cette machine à café, je vais regarder les étiquettes, il y a A, plus, voilà, ok, mais celle-ci, elle est plus, mais par contre, elle a été fabriquée ici, mais ceci, voilà. Donc, si je dis que ça commence là, c'est compliqué, effectivement, de trouver la bonne solution. Par contre, dès le moment où je me dis, ok, ma machine à café est en panne, je vais la réparer, et je garde cette machine à café, il y a moins de problèmes.
Ouais.
Ça devient simple. Et en plus, ce qui se passe, la différence, quand je me complique la vie, en fait, je ne suis pas dans des gestes à haut potentiel. Par contre, quand je me complique moi la vie, c'est-à-dire que je me dis je répare, même si ça me coûte quelque chose, c'est pas grave, c'est le coût environnemental qui est important et c'est plus le coût financier, et bien à partir de là, je me simplifie la vie et en même temps, je suis dans un geste à haut potentiel. Parce que cette machine à café ne sera pas reconstruite de l'autre côté de la planète.
Alors, si on revient à l'exemple de la voiture, je crois que justement à Neuchâtel, vous avez carrément fait une démarche auprès des autorités sur la taxe auto pour que soit comprise dans la taxe auto l'énergie grise.
Oui, ça c'est suite au petit livre En voiture Simone, qui est sorti une année et demie maintenant, bientôt deux ans, au Salon du Livre à Genève. Et puis c'est vrai qu'il a rencontré un très très grand succès. En plus, qui a eu des effets sur la politique. Dans le canton de Neuchâtel, effectivement, il est sorti quelques mois avant une révision de la taxe auto, qui était prévue d'être axée principalement sur le CO2. Et en ayant discuté avec différents députés, etc., on a réussi à faire changer les choses, c'est-à-dire intégrer la notion d'énergie grise dans la taxe auto à Neuchâtel. C'est la première fois en Suisse qu'on intègre la notion d'énergie grise dans une loi, et c'est peut-être même la première fois au monde. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est une très, très belle avancée. Et je veux dire ça parce que c'est simplement de poser la question de l'énergie grise au sein de nos programmes politiques. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important.
Je profite aussi de signaler que, grâce à vous, Lucien, à partir de cette année, toute nouvelle construction dans le canton de Neuchâtel devra obtenir une autorisation, encore une fois, du Conseil d'État pour utiliser du mazout.
Voilà, oui, c'est vrai qu'avec accompagné de mères de famille et d'enfants, on a déposé une motion populaire au château de Neuchâtel en 2009. Ça a été retenu, a été appliqué en 2011 et c'est à partir de 2015 justement que la loi entre en vigueur pour le canton de Neuchâtel. Effectivement, aujourd'hui, on doit avoir une autorisation spéciale pour cela.
Alors, quand vous approchez les autorités, vous avez l'impression d'être reçu comment ? Vous êtes un peu l'emmerdeur qui vient mettre un peu des bâtons dans les roues ?
Non, non. Moi, je crois que comme partout, il y a des personnes de bonne volonté. Et puis ces personnes de bonne volonté, des fois, c'est clair qu'un politicien, c'est pas évident hein, de prendre de grands virages. Il y a la pression du public derrière, les médias, etc. Donc pas facile. Et je dirais là, moi, j'essaie de venir en soutien aux politiciens de bonne volonté. C'est-à-dire que j'amène des idées. Et puis, pour montrer aux politiciens, dehors, en dehors de l'arène, il y a des gens qui attendent ça de vous. Et ça peut donner de la force aux gens de bonne volonté. Ça démontre qu'en tant que simple citoyen issu en Suisse, avec la démocratie directe, on a vraiment la possibilité de changer des choses. Et je crois que c'est de travailler avec les politiciens, plutôt que de critiquer, etc. C'est facile la critique. Ben, si on trouve des solutions, parlons-en avec les politiciens qui ont la possibilité de faire appliquer ces lois, Et puis, ça peut se passer très bien.
Et encore une fois, c'est le nombre qui compte. Plus on sera à vouloir améliorer la vie, plus facile ce sera.
Oui, je crois que c'est ça. C'est que vraiment, se dire qu'on a l'impression de dire qu'on est tout petit. Mais moi, j'aimerais juste raconter une histoire que je raconte à chaque fois dans les conférences. C'est le chocolat caillé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça devait être en 2006, quelque chose comme ça. Nelly Wenger, qui avait très bien relevé le défi de l'Expo National 02, a été nommée directrice suisse pour Nestlé. Et avec son copain Jean Nouvel, qui avait fait durant l'Expo 02 le fameux monolithe sur le lac de Morin, ils ont décidé de révolutionner l'emballage du chocolat caillé. C'était un flop total, il y a du plastique autour, pratiquement qu'on s'écorchait quand on ouvrait le frigo, etc. Bref, ça n'a pas plu du tout au grand public. Résultat des courses, quelques mois plus tard, on recevait tous, je ne sais pas si les auditeurs se rappelleront de ça, une boîte avec à l'intérieur une plaque de chocolat et une lettre en papier recyclé où Nestlé nous expliquait, ou donc caillé respectivement Nestlé, expliquait qu'ils avaient bien compris que nous étions très attachés à notre papier traditionnel, donc ils nous offraient une plaque de chocolat pour montrer qu'ils nous avaient compris. Donc on voit que le tout petit consommateur suisse par rapport à la grande multinationale Nestlé a réussi à changer les choses. Le pouvoir, il est entre nos mains. C'est facile de se dédouaner de ce pouvoir en critiquant les politiciens, en critiquant les grands industriels de ce monde. Je crois que vraiment, c'est à nous, à chacun, de décider ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et à travers l'acte d'achat, on a un énorme pouvoir. On a le pouvoir suprême, le plus grand pouvoir qui existe sur cette planète. Il suffit d'acheter ce que l'on veut et de ne plus acheter ce qu'on ne veut pas. Et c'est tout. Et ce choix clair pour la question environnementale peut être vraiment capital.
Mais alors, le message, il est absolument magnifique. Pourquoi ça n'a pas encore marché? On a tous reçu ces mails à une époque ou à l'autre. Boycotter Tamoil, on ne va plus acheter d'essence, le marché sera terminé.
Bon, je pense qu'il y a différents facteurs. Hein. Bon, c'est clair. Déjà, on est tous très stressés. Tout va toujours plus vite. On n'a plus vraiment le temps de réfléchir. Ce qui veut dire que ça invite aussi à devenir suiveur, tout ça. Vous rentrez le soir, vous êtes claqué, il y a encore les enfants, etc. Paf, paf. Les enfants sont au lit à 8h30, vous descendez, vous êtes complètement creux, vous n'avez qu'une chose, vous avez envie d'être derrière la télé, quoi. Voilà, c'est ce que beaucoup d'entre nous vivons, hein, à un moment donné. Mais juste l'idée, c'est de dire, il y a déjà ça. Donc, reprendre le temps de réfléchir certaines fois. Et puis, ce n'est pas toujours simple, effectivement, parce que comme on complexifie le message, c'est qu'on ne sait plus trop à quel sens vouer, à un moment donné. Et lorsque j'ai acheté quelque chose, déjà savoir que plus j'achète, plus je pollue. Donc, moi, j'achèterai, mieux ce sera. Plus on fabrique, plus on pollue. Donc, à partir de là, j'achète plus d'occases, je vais au troc, je répare, j'achète plutôt la qualité qui coûte un petit quelque chose plutôt que les objets bon marché, etc.
J'ai cette image, encore une fois, qui circule aussi sur Internet, c'est marrant, de dire... On voudrait que les choses changent, mais nous, on voudrait pas changer. Donc, on est aussi attaché à notre luxe. Donc, boycotter la consommation de cette chose-là. Ah ouais, mais quand même, hein, on aime bien son petit luxe.
Son petit confort, effectivement. Je comprends, hein, je suis passé par là aussi. Hein. En tout cas, personnellement, ce qui m'a aidé pour avancer, c'est de comprendre l'énergie grise et de pouvoir l'intégrer dans mon quotidien. Ça, ça a été pour moi une révélation qui m'a vraiment aidé. C'est pour ça que je vais la partager maintenant avec les autres. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est d'élargir mon égoïsme. C'est-à-dire que il y a nous, et puis ses enfants, son épouse, sa famille proche. Puis là, on a envie de prendre. Et c'est de dire, ben, OK, tout ce que j'ai envie de faire bien pour eux, quels que soient les gestes que je fais dans mon quotidien, que je le veuille ou non, mes gestes ont une conséquence positive ou fâcheuse pour le collectif. Et ce qui est bon pour le collectif est bon pour moi, et ce qui est vilain pour le collectif ou fâcheux pour le collectif, c'est fâcheux pour moi. À part de là, c'est comme un boomerang, on se ramasse ça en pleine tête par la suite. Donc, si tout ce que j'ai envie de faire bien pour moi, pour ma famille, mes enfants, mon épouse, je l'élargis à mon entreprise, à mon quartier, à ma ville, à mon canton, à mon pays, au monde. Et dès le moment où je suis au niveau du monde, à partir de là, ça change aussi ma posture. Et dès le moment où on adapte cette posture du monde, qu'on s'ouvre à ce monde et qu'on se rend, on a pris conscience que mes choix ici font que ça a des répercussions de l'autre côté et ces répercussions qu'il y a de l'autre côté ont des répercussions sur ma vie aussi, juste se rendre compte que comment voudrait-on être en bonne santé si on a une planète qui est malade? Si on rend notre planète malade, on ne pourra pas être en bonne santé. Ce n'est pas possible.
Je n'ai pas encore donné le titre de la conférence avec laquelle vous tournez, Écologie, désinformation et intox, comment y voir clair? Est-ce qu'on a beaucoup de fausses croyances par rapport à l'écologie, à ce qu'on peut changer, à ce qu'on peut faire de mieux? Pourquoi vous parlez de désinformation?
Beaucoup d'idées reçues, hein, beaucoup d'idées reçues. Désinformation, parce que justement, on est très axé sur cette pollution directe, comme j'expliquais tout à l'heure. Par rapport à la pollution indirecte, qui est très importante de tenir compte. On va nous inviter à changer régulièrement d'objets pour faire mieux sur le plan environnemental. Donc j'achète un nouvel objet, une nouvelle voiture, un nouvel machin à café en pensant que je fais bien pour l'environnement. Je vois des gens qui font ça et c'est ça qui me rend triste certaines fois. Je vois des gens de bonne volonté mais qui choisissent des pistes qui sont pas forcément les bonnes pour le vivant. Ce qui se passe aussi, bah, par exemple, souvent on entend dire que l'écologie c'est pas simple, c'est compliqué, c'est complexe. Oui, la vie est complexe effectivement. Enfin, c'est plein de choses qui sont en lien. Mais l'écologie c'est pas compliqué du tout. Vous voulez vraiment faire mieux pour le vivant, mais achetez moins, achetez au troc, allez réparer. Après, quand on dit l'écologie c'est cher, etc. Ben, moi j'ai jamais économisé autant d'argent que depuis que j'applique les gestes à haut potentiel, c'est-à-dire l'écologie dont je parle tout à l'heure, c'est-à-dire j'achète moins, j'ai plus que deux jeans. Bon, pourtant j'ai de l'allure, hein. Ouais, ça va, ça va encore, ouais, d'accord. Moi j'en ai plus que deux, hein. Que voilà, on peut très bien vivre avec moins. Et puis, bah, franchement, je sens actuellement un désencombrement qui fait tellement de bien.
Ah ouais. Ça éclaircit les idées aussi. Hein.
Terriblement. Imaginez-vous voir tous les gadgets qu'on a. Imaginez les heures de travail que l'on passe pour acheter tous ces gadgets pas vraiment utiles. Imaginez-vous ce qu'on court dans la vie pour s'acheter des choses inutiles. C'est terrifiant. Des choses inutiles qui, en plus, tuent la vie de l'autre côté de la planète. Ouais. On est complètement taré quand on y réfléchit. Voilà. Donc, c'est peut-être juste pouvoir reprendre cette dimension-là puis se dire, OK, avec ça, OK, j'ai envie ou j'ai pas envie. Après, il y a peut-être personne qui n'a pas envie. Bon, OK, chacun sa vie, hein, chacun est libre. Mais si on a un peu de sensibilité par rapport à la vie, bah, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux commencer? Puis on commence par des petites choses. Moi, mon dada, c'est les bagnoles, quoi. Donc, j'ai trouvé des voitures avec beaucoup de chevaux sous les capots, etc. Et puis, c'est le dernier truc que j'ai vraiment pu lâcher, quoi. Mais j'ai commencé par les petites choses, des choses qui étaient moins importantes pour moi. Et j'invite justement, si des personnes qui nous écoutent ont envie de commencer par quelque chose, commencez surtout pas par ce que vous préférez. Commencez par des choses qui sont plus anodines pour vous. Et vous verrez que ce qui est intéressant, ce qui est important, je crois, pour pouvoir bien se mettre sur cette progression, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et c'est ça, la chaussure rouge aussi. Si vous décidez de changer un geste dans votre quotidien, conscientisez bien pourquoi vous le faites. Sachez qu'en changeant ce geste-là, vous êtes en train de prendre soin de la vie, de votre vie à vous, la vie de vos enfants, la vie de vos voisins, la vie à tous. Et prendre soin de la vie, ça fait tellement de bien qu'on vit des petits bonheurs à la fin. Et à partir de là, comme des petits bonheurs, ça fait du bien à vivre, eh ben on est en recherche de petits bonheurs. Et on arrivera à monter sur des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire un jour.
J'ai juste envie de poser la question aussi, parce que c'est une remarque que j'entends parfois, c'est que, voilà, encore à notre tout petit niveau, ça sert à rien qu'on fasse attention, qu'on trie nos déchets, etc., parce que c'est aux grandes entreprises, c'est aux grands pollueurs de faire des efforts. Nous, ça sert à rien.
Oui, c'est clair, c'est une belle manière de se dédouaner de notre responsabilité, en fait. Non, chaque geste compte. Je prends par exemple les clous. Voilà, c'est une histoire que j'ai bien racontée aussi. Les clous, quand j'étais enfant, on a manqué d'argent à la maison. Mon père, grand bricoleur, lui, chaque fois qu'il tordait un clou, il remettait le clou droit pour économiser de l'argent. Puis moi, arrivé à ado, je me disais, voilà, vraiment, papa, là, vraiment, avec ses clous, il exagère un peu. Ouais, eh ben moi, aujourd'hui, lorsque je bricole, puis je suis un peu moins bricoleur que mon père, donc je tords un peu plus de clous, quand je tords un clou, je prends le temps de remettre droit. Non pas pour économiser de l'argent, mais pour économiser de l'énergie grise. Ce qui se passe, c'est que lorsque je remets ce clou droit, je réfléchis à ce que je suis en train de faire. Je sais que je suis en train de prendre soin de la vie. Et ça me fait, je vis un petit bonheur à la fin, je suis content. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. C'est un clou, c'est rien, c'est anodin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est clair que si quelqu'un commence à remettre ses clous droits ou faire un petit geste qui prend soin de la vie, qui paraît anodin pour les personnes qui n'ont pas encore compris, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, on va peut-être essuyer des critiques, des réflexions du type oh, « ça sert à rien du tout, regarde-moi, mais qu'est-ce que tu fais avec ton clou, etc. » Pas grave. Juste à voir pourquoi on le fait, pour prendre soin de la vie. Et de se dire que si tout le monde comprend ça, et que chaque jour, chaque personne qui tord un clou prend le temps de le remettre droit, c'est des millions de clous chaque jour économisés. Et avec des millions de clous économisés chaque jour, on commence à changer des choses, vraiment. Donc chaque geste compte.
Ce qui me parle aussi beaucoup dans votre message, c'est que pas une seule fois, effectivement, vous parlez d'entrer en guerre ou de vous battre. Tout ça, pour vous, ça fait partie d'un tout qui se fait avec l'amour de la vie, avec l'amour des autres et avec l'amour de soi.
Ouais, pour moi, selon moi, c'est faire fausse route, quoi, d'aller à l'attaque. Je vois, j'étais assez dans le monde des affaires, j'ai vécu ça, j'ai vu ce que ça amenait. La violence, ça n'apportera rien.
C'est difficile maintenant pour moi de résumer votre message. Ouais, vous êtes tout ému.
Ouais, je suis un peu ému, ouais. Ouais, parce qu'on parle en profondeur, là, j'espère que ça se ressente. Non, mais je pense que, justement, c'est vraiment, je crois que c'est l'amour, hein, qui est important, hein. Et c'est vrai que ça peut un peu bœuf de dire ça comme ça, mais quand même, je crois que le fond, c'est ça. L'écologie, c'est pas seulement l'écologie autour de nous, c'est aussi l'écologie de l'esprit. Et je crois qu'on a aussi beaucoup à nettoyer chacun d'entre nous. Ouais. Moi le premier, hein, c'est un travail quotidien. c'est pouvoir vraiment essayer de lisser l'ego, cet ego qui nous guette dans chaque coin de notre cerveau. Pas facile, c'est un grand travail.
Donc, j'essaie de résumer l'idée. La chaussure rouge, c'est un réseau qui veut réunir des gens qui ont envie de faire des efforts, de prendre des responsabilités pour améliorer la vie. Chacun à leur manière, chacun avec leurs possibilités, chacun avec leur conscience. Pas dans une idée de combat, mais dans une idée d'avancer. J'ai retenu de notre discussion que, en tant que consommateur, c'est notre bulletin de vote, quoi. On est les rois du monde avec la consommation. On peut arrêter demain si on veut, hein. C'est ça. Et qu'on va vous suivre, que si on peut, on va vous voir en conférence, vous les donner bénévolement en plus, et puis que je renvoie les gens sur le site internet lachaussurerouge.ch, parce que il y a plein d'adresses si on veut réparer nos objets, si on veut rencontrer d'autres gens, si on veut troquer des choses. Et puis je pense qu'il va se passer encore, on va découvrir un peu les projets qui se font avec la chaussure rouge au fur et à mesure qu'ils vont arriver, quoi.
Ouais, c'est la vie qui nous les enverra, en fait, ces projets. Nous, c'est juste, le but, c'est de mettre les gens en lien, de pouvoir créer des dynamiques.
Rendez-vous sur lachaussurerouge.ch. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on se parlera, Lucien Vimin. On va essayer aussi de suivre ce qui se passe de votre côté avec la chaussure rouge. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous dis un grand merci.
Merci beaucoup à vous aussi, Mamel. Merci beaucoup, merci.
À l'ombre du baobab.